l'actualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Hey, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
C'est Calibre.
Avec un peu de retard, une fois n'est pas coutume.
Calibre, une émission donc sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble, que vous écoutez peut-être à travers le grand internet en direct ou à travers un de nos nombreux enregistrements. On est le 25 novembre.
Absolument. 2010. Et ce soir, Calibre, c'est à la technique et au téléphone, nous avons Maud et Christelle.
Et dans le studio, derrière les micros, pour répondre à vos appels au téléphone et pour blablater, Myriam.
Et Luna.
Et oui, nous voilà. Calibre, hein, c'est tous les jeudis, de 20h à 21h, quand on commence à l'heure.
Voilà. Et Calibre, ben l'idée de la libre antenne, c'est de nous appeler pour partager témoignages, expériences, coups de gueule, réflexions, voilà. Et pour les gens qui n'ont pas la possibilité ou pas l'envie ou pas encore la force ou que sais-je de nous appeler, eh bien, il y a d'autres possibilités de nous atteindre qui sont notamment de nous envoyer un mail. Et c'est vrai qu'il y a quelques auditrices et auditeurs qui régulièrement nous écrivent et c'est très très chouette de recevoir ces témoignages et ces questionnements.
Alors voilà, on a reçu un mail, mais alors l'auditrice qu'on va appeler S parce qu'elle nous a pas dit qu'est-ce qu'on devait faire avec son prénom, oui. Si tu nous écoutes et que tu veux nous appeler ou si d'autres personne qui nous écoute voudrait nous appeler, le numéro c'est le 04 76 09 09 09 04 76 09 09 09.
Voilà. Et puis peut-être qu'on peut démarrer par lire ce mail et puis commencer à en parler, soit est-ce tu as envie de nous appeler pour continuer à discuter, soit eh bien on fera ce qu'on pourra nous ici tous les deux.
Alors situation pas simple, un peu coincée, je vous dis. Pour la petite histoire, j'ai 38 ans. J'habite avec mon copain depuis environ 5 ans. Nous vivons une relation exclusive au niveau partenaire sexuel et je suis très amoureuse. J'ai toujours été sûre de ne pas vouloir d'enfant, mais vraiment très sûre de moi. Et voilà que depuis 2 ans, j'ai très envie d'être enceinte et d'avoir un enfant. C'est venu d'un seul coup et j'ai été la première surprise. Ça a bien fait rire mes copines aussi. Sauf que c'est un désir très violent. Je n'imagine plus ne pas porter d'enfant dans ma vie. Le problème, c'est que mon copain ne veut pas en entendre parler. Et je le sens s'éloigner de moi quand je lui en parle. Je ne veux pas le quitter et je n'ai aucune envie d'être une maman célibataire. Je ne m'en sens pas la force. J'essaye de me raisonner et de me rappeler ce que je me disais il y a seulement 2 ans. Mais une vie ne suffira pas. J'ai trop de projets, trop d'envie. Mais bien sûr que ça ne marche pas du tout et ça devient obsédant. Je ne pense qu'à ça. C'est difficile à expliquer sur cette envie d'être enceinte, presque incontrôlable. Alors pour expliquer à mes copines, je leur dis, c'est comme quand tu as très envie de faire l'amour avec quelqu'un avec qui ce n'est pas possible. Tu vois le truc horrible? Et ça c'est tous les jours depuis 2 ans. Alors voilà, je ne sais vraiment pas quoi faire. J'aime mon copain et ai 38 ans et peut-être ne pourrais plus être enceinte d'ici quelques années. Et surtout, j'en ai marre de ne penser qu'à ça. Voilà, alors elle en appelle nos témoignages, nos réflexions,
Bon, bah c'est clair que c'est une situation compliquée à plein de niveaux, enfin compliquée et à la fois tellement... J'ai l'impression que c'est tellement courant, en fait, comme type de situation. À la fois le fait de soi avoir envie d'enfant, pas avoir, avoir ce désir violent, plus l'avoir, pas vouloir ça pour sa vie, mais à la fois ressentir que quand même si. Et à la fois cette différence de désir entre des partenaires dans un couple qui se construit en tant que tel, quoi. Du coup, Oh là là, mais que dire? S, appelle-nous que nous discutions. Non, en fait, déjà, moi, il y a vraiment cette partie qui la concerne directement sur ce désir où a priori elle avait fait le choix ou en tout cas elle avait identifié cette envie en elle de ne pas avoir d'enfant et que d'un coup, bam, en fait il y a un désir hyper violent Alors, de ce que je comprends du mail, c'est plus un désir de porter un enfant, d'enfanter, qu'un désir d'être mère dans le sens d'élever des enfants. En tout cas, c'est plus cette première envie physique qui ressort dans ce qu'elle raconte.
Ouais.
Donc ça, c'est un premier point peut-être à interroger, à questionner, parce que c'est vrai qu'on a la vision de l'enfantement assez linéaire, hein, c'est-à-dire, en gros, on baise, donc on... Non, je vais pas aller jusque-là. Bon, bref, quand on est enceinte, qu'on veut avoir un enfant, en tout cas qu'on décide d'avoir un enfant, eh ben, on voit ça très clairement comme, on baise, du coup, a priori, on est en couple, on fait un enfant à deux, et puis on va l'élever ensemble.
Oui, à deux.
Voilà, à deux. En vrai, tous les enfants qui viennent au monde ne viennent pas dans ce genre de circonstances, et certaines fois par choix, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule façon d'avoir des enfants, d'être en couple et d'élever un enfant ensemble, quoi.
Mais parce que oui, c'est ça. Par exemple, lui, alors le partenaire de S là, bon, elle dit qu'il veut pas en parler, qu'il s'éloigne et qu'il fuit. Mais bon, moi j'aurais envie quand même d'essayer un peu de creuser en fait. C'est quoi lui, qu'est-ce qui lui, de quoi il a pas envie en fait? Est-ce qu'il veut pas être père biologique? Mes gènes ça va très bien, je veux pas les reproduire,
les diffuser.
Bon, c'est, enfin, je veux dire, ça peut exister, quoi. Est-ce qu'il veut pas vivre avec un enfant? Est-ce qu'il veut pas participer à l'éducation d'un enfant? Est-ce que il veut pas être un couple avec enfant dans ce contexte de couple? Enfin voilà, en tout cas d'essayer de comprendre ça, parce que j'ai l'impression qu'en fonction de lui, de quoi il a surtout pas envie, et ben ouais, il y a peut-être d'autres façons d'avoir ou d'élever des enfants qui peuvent exister.
Ouais, en fait, ouais, moi j'ai l'impression que c'est une histoire de communication déjà avec elle-même, hein, notre auditrice S, de... Ouais, c'est peut-être par l'échange, mais alors pas forcément avec les copines qui rigolent de ce changement de désir par rapport aux enfants. Peut-être trouver d'autres complices, des groupes de femmes, je sais pas. On peut lancer un appel à témoignage aussi ce soir, hein, si vous avez vécu ce genre de situation de avoir envie, pas avoir envie d'enfant, et puis surtout aussi de différence d'envie dans un couple. Bah appelez-nous, ça peut être une pierre ajoutée aux réflexions de S. Voilà, donc sur elle, vraiment se poser cette question, quel est aujourd'hui le désir, quoi. Est-ce que c'est être enceinte, avoir envie d'appréhender cette phase là dans le corps, on va dire, avec aussi ce qu'on sait que ça fait sur les hormones, enfin voilà, vraiment vivre cet état là de transition. Est-ce que c'est envie de se reproduire biologiquement? Est-ce que c'est envie d'élever des enfants? Et du coup, une question qui peut être intéressante, c'est de voir quel est son rapport aujourd'hui avec d'autres enfants,
ouais,
dans sa vie d'aujourd'hui, quels autres bébés, enfants elle côtoie, quelle est sa place par rapport à ses enfants, qu'est-ce qui l'a fait triper, qu'est-ce qui l'a fait moins triper.
Bah parce que après c'est ça, elle dit qu'elle veut pas le quitter et qu'elle veut pas être mère célibataire. Mais peut-être il y a quand même d'autres trucs. Enfin, je veux dire, d'une part, lui, peut-être il a pas envie de vivre avec un enfant, tout de même toi, mais peut-être qu'il a bien envie de le concevoir et de participer à son éducation sans pour autant vivre. Enfin, je veux dire, on peut imaginer de éventuellement de plus partager un toit, même si là c'est le cas dans cette histoire. Peut-être qu'elle a notre auditrice, elle a envie de continuer à vivre avec ce garçon. Mais peut-être il y a aussi cette autre possibilité qui est d'essayer de trouver d'autres parents, éventuellement, qui auraient envie de vivre ensemble. Et bon, alors un peu, on va encore se moquer de moi et de nous, là, avec nos délires hippies ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est possible d'habiter plusieurs parents ensemble dans des grandes maisons et d'élever plein d'enfants à plusieurs. Et, oui.
Oui, c'est vrai qu'aussi l'alternative, c'est soit se séparer et être mère célibataire, comme elle l'appelle, soit renoncer à ce désir d'enfant s'il est vraiment là. Effectivement, les deux solutions ne vont pas, quoi. Après, moi, il y a un autre truc qui me questionne dans ce mail-là, c'est le partenaire qui, bon, apparemment, lui, c'est quelque chose d'assez violent, il veut pas d'enfant. Peut-être parce qu'il se sent... cette violence, elle est aussi peut-être parce qu'il se sent pris au piège, parce que lui non plus, il a peut-être pas envie d'arrêter cette relation, et du coup il voit un truc un peu une espèce de mur, et ça serait intéressant de trouver des moyens de que tous les deux se posent et questionnent ce bah moi c'est quoi mon envie d'enfant, en fait, de quoi j'ai envie dans l'enfant, et toi c'est quoi que t'as pas envie dans l'enfant, ce qu'on te disait, mais vraiment faire cette étape préalable avant de prendre des décisions.
Après là, ce qui est dur, c'est que moi j'entends, quoi, c'est sûr que à 38 ans oui, il y a, en tout cas, il y a un moment donné où ça devient plus compliqué, plus risqué, et puis il y a un moment donné un peu plus tard où c'est plus biologiquement possible du tout, quoi, d'être mère. Et que, en tout cas, ça fait une pression supplémentaire, je pense, qu'il doit être pas facile à vivre dans leur histoire à deux, quoi.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais.
Oui, Maud me dit qu'il faut que j'articule plus. Donc, dans leur histoire à deux, ça doit être difficile à vivre, voilà.
Oui.
Est-ce que... On va aussi peut-être... là, voilà, on a lancé plein de pistes, posé plein de questions. C'est tout à fait possible que Emma et Mélanie, la semaine prochaine, rebondissent là-dessus aussi. Et si éventuellement tu veux nous renvoyer un mail pour qu'on continue cet échange au fil des semaines.
Ça fait un peu coach, en fait, là je me rends compte, mais c'est vrai que si toi t'as pas envie d'appeler spécialement pour échanger, ben ça peut être bien, ouais, d'entendre un peu ces questionnements qu'on a posés, si t'as l'occasion de te poser avec ton ami à creuser un petit peu la question et puis nous renvoyer les infos pour qu'on puisse nous aussi continuer à creuser sur cette question là après, si t'as envie, quoi.
Si t'as envie.
On s'enchaîne avec un morceau de musique.
Allez,
hein,
un morceau de musique.
Enchaînons-nous. Alors, quelle est la musique? Je suis perdue. Ah non, ça y est. C'est, alors, Chicks on Speed. Et le morceau s'appelle Shooting from the Hip.
quel accent. No one noticed you had disappeared. It's been 2 days, no connection. Pile of hardware, making hits. If the quality is high at the parties, there's a place for you on the guest list. There's a place for you. Mind crack.
think improvements, a better feeling generated, accelerating. That was a strange movie. Cardboard box in the closet, left untouched for future functions. When the animal comes out, voice of terror, screaming at you, screaming at you. What you thinking?
Nation in the grip of form fever, free for the big three, shooting from the hip. This is no way, pick a president, shooting from the hip, cover, feature, divided world, shooting from the hip, dark light, survival, shooting from the hip, open market, economy, Microsoft, AIDS, shooting from the hip, deal on human rights.
Vous êtes de retour sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble.
Vous pouvez toujours nous appeler
pour
lancer le sujet que vous voulez au 04 76 09 09 09, notamment soit pour apporter des pierres à la réflexion qu'on avait juste avant sur cette question de désir d'enfant, soit sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà, parce que là nous on est parti pour vous parler de choses pas très sympathique.
Non, mais qui nous tiennent à cœur quand même.
Oui.
Oui. Voilà, alors aujourd'hui c'est le jeudi 25 novembre et donc c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors bon, ça devrait être tous les jours la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais disons que là, dans un intérêt là qui a eu cette journée, c'est que ça a marqué un peu une date et que il y a plusieurs collectifs asso qui ont lancé une campagne contre le viol.
Ouais. Une campagne contre le viol, donc qui est bon, vous avez dû entendre ou voir, parce que c'est vrai qu'il y a un battage médiatique autour, mais c'est vraiment pas inintéressant cette campagne, parce qu'elle prend, les choses sont amenées telles qu'elles sont en fait, et non pas telles qu'on nous les présente d'habitude, quoi.
Bah, en tout cas, si on écoute un peu la radio, qu'on lit les journaux, je sais pas pour la télé, j'en ai pas, mais en tout cas ça a été relayé assez fort dans les médias, et c'est étonnant de pour une fois voir entendre parler autant du viol, et aussi avec ce ton-là, avec non pas juste un aspect fait divers sordide, mais une réflexion plus de fond sur qu'est-ce que c'est que le viol dans ce monde, et aussi voilà la réalité un peu du quotidien du viol.
Du coup, on a été faire un tour sur le site internet qui s'appelle, je crois, contreleviol.fr, un truc comme ça. Et il y a plein de choses intéressantes. Et il y a notamment une page de témoignages. Et on a sélectionné trois petits témoignages qu'on avait envie de vous lire, qui sont pas très très longs. Hein.
J'attaque.
Comme tu
j'attaque.
Veux. Allez.
C'est bref. Donc c'est un témoignage d'Elisa qui dit. C'était avec mon copain de l'époque. On était au lit, j'étais sur le ventre. Sans me prévenir, sans me demander si j'en avais envie, alors que nous ne l'avions jamais fait, il m'a sodomisé. Ça m'a fait très mal, ça l'a amusé. Ça m'a dégoûté. Mon corps n'est donc rien que pour qu'on puisse lui faire mal comme ça. Et moi, qui suis-je au final ?
Un autre témoignage de... Alors attends, je galère.
Pardon.
C'est la technologie, moi pas très forte. Moi quand il n'y a pas la copie papier, je galère. Alors, témoignage de Béatrice. Le viol en lui-même est une expérience traumatisante. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la réaction de l'entourage est souvent presque aussi traumatisante. On s'attend à ce que tout le monde condamne sans ambiguïté ce qui s'est passé, mais ça ne vient pas. Les flics sont suspicieux. Les proches, garçons comme filles, nous regardent comme si on était affecté d'une maladie dégoûtante et contagieuse, ou comme une chieuse qui casse l'ambiance. 3 semaines après le viol que j'ai subi, 2 amis proches qui étaient au courant m'ont amené voir un film qu'ils adoraient. Dans ce film, il y avait 2 scènes de viol, dont l'une était réalisée d'une façon cocasse. Et l'un de mes amis rigolait en la regardant, pendant que tous mes muscles se crispaient et que des sueurs froides coulaient dans mon dos. J'en ai fait des cauchemars. Ça m'a fait presque aussi mal que le viol lui-même. Mais ses amis n'ont pas du tout compris que j'arrête de les fréquenter.
Et alors, un dernier. Alors, signé aussi par une Elisa. Pendant que cet homme me violait, quelque chose m'est apparu très clairement. Le viol n'a rien à voir avec un rapport sexuel. C'est un acte de haine et de domination, même s'il n'y a pas de coup. Pour lui échapper, je me suis réfugié dans ma tête, en me répétant qu'il ne pouvait atteindre que mon corps, pas ma personne. Mais ma personne, c'est aussi mon corps, et c'est difficile, après cette division, de réconcilier les deux, esprit et corps, de les faire se rejoindre en un seul moi.
Donc voilà, c'était 3 témoignages extraits d'une série d'autres témoignages hein, qu'on peut retrouver sur le site. Sur ce site, il y a un appel qui est vachement... Enfin, je trouve qu'il pose bien les choses, mais on va pas vous le lire. Comme ça, si vous avez envie d'aller le voir, vous pouvez aller le découvrir. Et puis, je pense qu'il circule un petit peu. Et il y a une autre page avec des idées reçues sur le viol qui sont déconstruites. Et ben moi, je les trouvais intéressantes. Du coup, j'avais envie de qu'on en discute aussi.
En tout cas, elles rebondissent pas mal. Enfin, nous, si on a choisi ces témoignages-là plutôt que d'autres, c'est parce que justement, on avait l'impression qu'ils évoquaient tout ça. Alors, dans les, donc, on va vous lire hein, les idées reçues. Donc, 1. Le viol est un phénomène marginal.
Bon, ça, je pense qu'on commence à comprendre que c'est faux quand on a les chiffres. Alors, le site parle de 75 femmes violées chaque année en France, au minimum. Bon, c'est vrai que c'est des chiffres qu'on a du mal à établir, hein, puisque la plupart des viols ne sont pas dénoncés, que ce soit en portant plainte ou ne serait-ce qu'en téléphonant à une association, où là aussi les appels sont notés. Bon, il y a plein de femmes qui le taisent et qui ne le disent pas. En tout cas, d'après ce site, il y aurait une femme sur 5 qui, dans sa vie, subirait un viol ou une agression sexuelle. Moi, j'ai entendu des chiffres qui sont... même au-delà, quoi, pratiquement 1 femme sur 2, 1 femme sur 3. Après, je pense que ça dépend quelle définition on prend, mais voilà. Donc, non, le viol n'est pas un phénomène marginal, loin s'en faut.
2e idée reçue. Le viol est le plus souvent commis par un inconnu dans une rue sombre.
Oui, alors ça, c'est l'image classique hein, du viol, si on peut dire ça comme ça. Bon, ben les statistiques, les enquêtes montrent que dans 9 cas sur 10, l'auteur du viol est connu de la victime. Que dans 50% des cas, il s'agit d'un membre de la famille ou de l'entourage. Que dans 34% des cas, il est commis au sein du couple, le viol. Pareil, je pense que là, il doit y avoir un effet de sous-déclaration de ce qu'on considère qu'il y a un viol ou pas. Et un autre chiffre, puisqu'on est sur les chiffres, que 63% des victimes de viol sont mineures, filles et garçons.
Enfin, je sais pas, c'est pas cité d'où viennent ces chiffres, mais
il y a les enquêtes, en fait, c'est un croisement dans leur site, c'est marqué, c'est un croisement entre l'enquête sur les violences faites aux femmes qui date de 2000, des statistiques d'organismes de l'État, les dépôts de plaintes et les appels aux associations. Voilà.
3e idée reçue. Ce sont surtout les filles provocantes, aguicheuses, qui sont violées.
Alors, c'est faux. Bien entendu, ce ne sont pas la tenue ou le comportement d'une femme qui provoque le viol. Non, c'est le violeur qui est coupable. Alors c'est vrai qu'on culpabilise beaucoup les victimes, hein, qui sans leur dire forcément frontalement, même si ça peut arriver, que on a cherché, on ne devait pas être à tel endroit, à tel moment, pas dire ça, pas faire ça. Bon, je crois qu'il faut arrêter avec cette culpabilisation des victimes. C'est une inversion totale des responsabilités. On voit ça nulle part dans d'autres champs de notre société. Donc voilà, il n'y a pas en plus un profil type de victime qui serait plus susceptible d'être violée. Non, ça concerne tout le monde, tous les milieux, toutes les cultures. Donc arrêtons de rendre les femmes responsables des agressions sur elles, quoi.
Quatrième idée reçue, le viol est largement puni.
Bon, alors là, moi, je suis un petit peu moins au courant de tout ça. D'après le site, en fait, déjà, comme on considère qu'il y a à peu près 10% des femmes victimes de viol qui portent plainte. Donc, ça veut dire 1 sur 10. Et que il y a seulement 1%, voire moins, des violeurs qui sont condamnés par la justice. Voilà, je peux pas commenter plus cette idée reçue parce que les chiffres de la justice, moi, je les connais pas trop.
Puis bon, faut voir, voilà, quand à un moment donné, des femmes souhaitent aller porter plainte ou quoi, de nombreux témoignages de comment c'est reçu par les flics, de comment c'est dur, du regard de la justice, de à un moment donné se retrouver entouré d'hommes pour aller raconter un viol. Enfin, je veux dire, c'est...
Oui, et qu'il y a beaucoup de plaintes qui aboutissent à des non-lieux aussi. C'est-à-dire que c'est, s'agit pas juste d'aller déjà de faire ce pas de porter plainte. Il faut réussir psychologiquement et c'est mieux d'être entouré dans ce cas-là, d'aller au bout de la procédure parce qu'effectivement c'est plus des barrières que des aides. Hein, la justice, hein, je parle pas des associations qui soutiennent ou qui aident. Hein, et puis même si on va jusque-là, c'est pas forcément reconnu. Et bon, après les peines sont ce qu'elles sont. Il y a quand même peu d'injonctions pour les violeurs à travailler le fond du problème, en fait. Hein.
Et puis au-delà de voilà la question judiciaire, c'est le témoignage qu'on a lu de Béatrice, c'est-à-dire à un moment donné, ses copains dans le film, ils rigolaient. Alors, il était loin d'être concerné, et à un moment donné, c'est aussi cette question de le viol est... Enfin, quelque part, ça cautionne l'existence du viol, à un moment donné, que ça soit tourné en dérision comme ça.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a, je ne sais plus qui parlait d'une société pro-viol, alors c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que, le viol n'a pas une image si dégradée, si horrible, si criminelle, en fait, hein, dans l'esprit, on va dire, dans les mentalités de notre société.
En tout cas, ce qui nous amène à cette cinquième idée reçue qui est, le viol est un drame individuel.
Eh bien non, le viol c'est d'abord, comme on vient de le dire, un problème de société, c'est l'expression en fait des rapports inégalitaires de domination entre les hommes et les femmes dans notre société et qui passe notamment par la volonté de contrôle et d'emprise sur le corps des femmes. Donc c'est-à-dire que, bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, on va pas creuser forcément là, mais les femmes qui sont supposées être à disposition des hommes pour satisfaire leurs besoins sexuels, qui sont soi-disant naturels, super forts, voilà.
Comme si, sixième idée reçue, le viol était provoqué par la testostérone.
Encore une fois, c'est pas du tout un comportement naturel, c'est bien culturel qui découle de cette relation construite et non pas innée entre les hommes et les femmes de domination. Comment on valorise une sexualité des hommes virile, conquérante, qui va s'approprier
les choses et donc le corps des femmes.
Alors, il y a d'ailleurs sur le site là, par rapport à ça, il y a une petite info qui m'a fait tilt parce que moi, j'avais pas du tout forcément fait ce lien-là. Apparemment, il y a des courants de pensée ou des gens qui diraient que dans les sociétés où la prostitution est autorisée, légalisée, dépénalisée, enfin bon, où c'est plus simple d'aller voir des prostituées, qu'il y aurait moins de viols. Et ben en fait, d'après les statistiques, non. Voilà, donc c'est pas une histoire de pouvoir avoir accès à une sexualité, hein. C'est la question du viol, c'est pas l'acte sexuel, c'est bien l'appropriation du corps, quoi.
Ça c'était la dixième idée reçue que le viol était le résultat de la misère sexuelle. Et moi je trouve dans ce témoignage c'est vraiment bien dit. Le viol c'est pas de la sexualité, c'est la violence, c'est la domination, c'est la haine, c'est pas. Enfin voilà.
Oui, et en même temps, je zappe un peu sur une idée reçue qui arrive plus loin, mais il y a aussi cette image que les hommes qui violent, les violeurs, sont des gens qui vont pas bien, c'est des psychopathes, ils sont, c'est des cas isolés, extrêmes. Et en fait, non, hein, c'est, il y a pas, encore une fois, comme il y a pas de profil type de femme qui peut être violée, il y a pas de profil type de violeur, ça touche tout le monde. Et d'ailleurs, pas mal les gens qui déjà ont une certaine forme de pouvoir dans notre société, quoi. C'est pas juste des gens qui compenseraient je sais pas quoi. Non, c'est vraiment dans les formes de relations entre les hommes et les femmes, en fait. Hein. On peut pas prendre un cas individuel. Alors, ça veut pas dire que tous les hommes sont des violeurs réellement ou potentiels, mais il y a quand même cette disposition à, quand on est éduqué en tant qu'homme et qu'on nous apprend, enfin, qu'on vous apprend. Moi, j'ai pas été éduqué en tant qu'homme. À être tout puissant face aux femmes, bah ouais, du coup, le viol, ça devient une possibilité, quoi.
Ouais, moi, ça me va, hein, de penser que tous les garçons sont des violeurs potentiels. Parce que, en fait, l'essentiel des images de certaines formes, enfin, de sexualité, en fait, qu'on peut croiser tout au long de notre éducation, enfin, je sais pas, notre parcours de garçon, quoi, face à la sexualité, et ben, il y a ça, quoi. Il y a de valoriser aussi la domination et donc à un moment donné Ouais, j'ai envie de dire que c'est bien plus dans nos esprits de garçons un truc qui existe, quoi, que enfin une façon de faire, en fait, une façon de faire, voilà, c'est ça.
Et du coup, vient aussi avec cette incapacité ou cette difficulté à entendre un non pour les hommes et à exprimer un non pour les femmes, même si il y a plein de façons d'exprimer un non sans forcément dire non, et qu'il y a quand même souvent, on a cette image de la femme qui dit non, mais en fait elle veut, il faut la forcer,
Ouais,
et en fait non, quoi. Si c'est pas un oui clair et net et sans interprétation possible, ça, c'est juste, c'est non, on arrête et puis on pose la question, quoi, si y a le moindre doute.
Mais moi, je me rappelle de discussions d'ado où j'avais des potes. Maintenant, là, ça me fait bizarre d'appeler ça des potes, mais qui me disaient non, mais là, elle te fuit, mais en fait, elle a bien envie. Ben non, en fait, elle a vraiment pas envie, et c'était clair.
Ouais. Puis peut-être une dernière idée reçue. Enfin, idée reçue, non. Mais ce qu'on nous rétorque souvent quand on parle des femmes victimes de viol, c'est « mais les hommes aussi sont victimes de viol ». Alors oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais 9 fois sur 10, en tout cas dans les cas qu'on connaît, donc ça sera sans doute plus, c'est une femme qui est victime. Et surtout, même si les hommes sont victimes, la plupart du temps, c'est alors qu'ils sont mineurs. Ouais. Donc il y a quand même un statut différent que le statut d'homme, voilà. Et puis, que les victimes soient hommes ou femmes, 99% des agresseurs, par contre, sont des hommes.
Oui.
C'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler, disons. Bon, voilà, on va peut-être pas s'éterniser sur cette question. En tout cas, on vous renvoie vers ce site, donc contreleviol.fr. Et puis, si, peut-être une dernière info, il existe un numéro de téléphone qui est gratuit et qui marche tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 19h, y compris des dom-toms gratuitement, où c'est en gros une permanence d'écoute pour les personnes victimes de viol ou d'autres personnes qui en auraient entendu parler par des amis qui savent pas quoi faire. Bon, bref, je vous donne le numéro, c'est le 0800 05 95 95, 0800 05 95 95. Et puis, en ce qui nous concerne, on va peut-être s'écouter un morceau de musique. Je vous rappelle le téléphone de Calibre, parce que nous aussi vous pouvez nous appeler, alors peut-être pas pour un témoignage de viol, enfin, quoi que, si vous en avez envie, besoin, c'est possible. Donc le numéro 04 76 09 09 09.
Et alors voilà, nous, pour quelque chose d'un peu plus En tout cas, voilà, des relations amoureuses, affectives ou du sexe chouette, ça existe. En tout cas, on avec Maud, on avait très envie de passer ce morceau qui s'appelle Mind Sex, qui est un morceau des Dead Prez que moi j'ai découvert il y a pas si longtemps et qui m'a vraiment étonné parce que je trouve que ça détonne par rapport à plein d'autres choses qu'on peut entendre dans le hip-hop. Alors juste vous traduire quelques paroles de ce morceau pour les non-anglophones afin que vous puissiez peut-être un peu mieux l'apprécier. Donc en gros il dit on pourrait cramer avec nos instincts mais on pourrait aussi avoir des bonnes vibrations et mais avant de faire l'amour allez on n'aurait qu'à avoir une bonne conversation. On pourrait passer quelques vinyles et puis discuter. Bon, je sais que tu penses que j'ai envie de baiser, puis pas de doute, mais cette nuit j'aurais envie d'un truc un petit peu différent. On pourrait commencer par manger une salade, de la laitue et des croûtons, et puis ensuite se faire une partie d'échecs sur le futon. Voilà, en tout cas que j'ai envie de mind sex, de sexe de l'esprit, et c'est ça qui m'excite, c'est aussi ce que t'as dans la tête, un truc comme ça. Voilà. Alors c'est mind sex.
We ain't got to take our clothes off yet. We could burn an instant and just chat, relax. I got the good vibrations. Before we make love, let's have a good conversation. Pardon me, love, but you seem like my type. What you doing tonight? You should stop by the site. We could roll some weed, play some records and talk. I got a fly spot downtown Brooklyn, New York. Now I know you think I wanna fuck, no doubt. But tonight we try a different route. How about we start with a salad, a fresh bed of lettuce with croutons. Later we could play a game of chess on the futon. See, I ain't got to get in your blouse. It's your eye contact that be getting me aroused. When you show me your mind and make me wanna show you mine. Reflecting my light when it shines. Just taking our time before the night's through. We could get physical too. I ain't trying to say I don't wanna fuck, cause I do, but for me boo, making love is just as much mental. I like to know what I'm getting into. See, we can have mindset. We ain't got to take our clothes off yet. We can burn an instant and just chat, relax. I got the good vibration. Before we make love, let's have a good conversation. It's time for some mindset.
Get up, we got a visitor.
African princess, tell me your interests. Wait, let me guess, boo, you probably like poetry. Here's a little something I jotted down in case I spotted you around. So let me take this opportunity. Would you share a moment with me over herbal tea? Take a walk verbally, make a bond certainly. Cause in my hand, I bet your hand fit perfectly. And it's like we floating out in space when you flirting with me. Come on, a little foreplay don't hurt. Imagine my chest under this shirt. Your ass under this shirt is like walking the hot sands and finding an oasis. Opposites attract, that's the basis. Sex is like the wind that separates the yin from the yang. The balance that means complete change. My aim is to touch you in a delicate spot. And once we get it started, I ain't trying to stop. But first we have mindset.
We ain't got to take our clothes off yet. We can burn an instant and just chat, relax. I got the good vibrations. Before we make love, let's have a good conversation. Mindset.
She smiles, I smile. She walks. No, she glides softly by me, changing night into day. She opens her mouth to speak, and soul sounds ring in my head. She speaks, and I want to dance to her rhythm. She moves ever so gently, increasing my desires. Desires to place my arms around her waist, hold and squeeze her to me. I want to melt into her body and discover the base of her warmth. Her beautiful black body that no human mind could ever conceive. She's love
She's truth. She's real. As real as the stars that shine in the heavens. As real as the sun that bathes the body. As real as the moon that glows. And the birds that sing. And the rose that blossoms in spring. For she is that rose. And not just any rose. Oh, but a black rose. Black rose that stands taller and stronger than any other plant. A black rose that stands as creator of nations. A black rose that never loses her petals and blossoms all year round. Black rose, sweet rose, thornless rose, eternal rose.
Vous êtes toujours sur Calibre en ce jeudi 25 novembre. Vous pouvez bien entendu nous appeler jusqu'à 9h au 04 76 09 09 09. Et pendant la musique, alors on a écouté les paroles parce que c'était rigolo, mais en même temps on s'est dit, sur cette histoire là de violence faite aux femmes, donc on a parlé de cette campagne contre le viol, et on voulait pas que l'idée reste de, la violence faite aux femmes, c'est le viol, c'est des meurtres, oui c'est ça, mais c'est bien d'autres choses. Et en général ça commence d'ailleurs par des choses qu'on analyse, qu'on ne reconnaît pas forcément comme étant violentes. C'est-à-dire qu'on reste beaucoup sur cette question de violence physique et violence sexuelle qui est, on va dire, l'apogée ou le paroxysme de la violence envers une personne, mais tout le temps en fait ça démarre par d'autres choses qu'on appelle des violences psychologiques ou verbales. Alors ça peut être il y a des choses qu'on voit beaucoup, notamment chez les jeunes, cette question du contrôle des apparences, c'est-à-dire de décider pour toi ce que tu peux porter ou ce que tu peux pas porter dans telle ou telle occasion. Alors ça peut être la mini-jupe ou à l'inverse le baggy, voilà. C'est peu importe dans quel sens en fait, hein, mais de se maquiller ou de pas se maquiller ou de... Voilà, peu importe comment. Donc de contrôler l'apparence de sa partenaire, contrôler ses fréquentations, que ce soit un interdit direct, je ne veux pas que tu vois telle personne, qui là est un peu clair, ou des espèces de reproches plus en dessous, plus ah oh, j'aime pas trop machin, non viens plutôt, ah tu dois voir truc, ah bah tiens si on faisait plutôt ça tous les deux, nanana,
mec.
Voilà, des choses comme ça. Et puis tout ce qui est dénigrement, humiliation, alors sans parler des insultes ou des choses comme ça, mais de dévaloriser la personne toujours en disant... Il y a beaucoup de gars quand même hein, qui avec leur compagne la dévalorisent beaucoup hein, sur t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça.
Non mais t'y arriveras jamais.
Voilà.
Ou des trucs plus insidieux comme juste de jamais prêter vraiment attention à je sais pas des idées ou d'histoires, des récits, je sais, enfin, il y a un truc de aussi là que j'ai pas, comment on écoute une personne et de, enfin, de suivre cette conversation ou de relancer ou d'encourager à dans telle ou telle chose.
Et tout ça, et bien maintenant, c'est officiellement, je crois depuis 2008, il y a une loi qui est passée en 2008, ça fait partie de la violence contre les femmes. C'est-à-dire que c'est pas là, on n'est pas en train de nous d'aller très très loin par rapport à ce qui se dit dans la société. Non, ça c'est un fait avéré, reconnu. Tout ça font partie d'un processus de violence et en tant que tel, ils doivent être stoppés et sont condamnables. Tous ces actes-là de contrôle, de dénigrement.
Puis bon, c'est pour le rappeler encore une fois quoi, que voilà, les 9 viols sur 10 ont lieu dans un contexte où la femme connaît son violeur et à un moment donné, c'est aussi souvent il y a des quand même des processus, non, je sais pas, je trouve ça m'offre, enfin des, en tout cas des mécanismes, des spirales qui aussi à un moment donné peuvent être éventuellement brisées avant ça, peut-être en tout cas en repérant plus les signes et des choses.
Disons qu'une fois que ces signes-là qui peuvent paraître, on va dire isolément pas très graves, mais c'est l'accumulation en fait qui installe quelque chose et qui rend notamment la personne sous emprise de cette autre personne, qui prend du pouvoir, et c'est ça aussi qui peut amener à du coup se retrouver dans des situations de violence physique ou sexuelle parce qu'on a baissé nos gardes et on est dans une dépendance en fait.
Et là, du coup, là, Myriam, tu avais sorti cet auto-test.
Ouais, alors ça, c'est une asso lyonnaise qui s'appelle Filaction et qui intervient pas mal auprès des jeunes, justement, pour prévenir les violences, pour faire tout un travail en amont. Ils ont un festival et oui, ils ont sorti cet auto-test qui est assez génial, qui s'appelle « Êtes-vous victime de violences conjugales ?»
Et je sais pas, il est un peu long, on le lit quand même maintenant ou... Oui, non.
En gros, l'idée du test, c'est qu'il y a des petites cases à cocher. Il y a 9 questions. Et ils disent... Donc évidemment, chaque paramètre pris isolément ne révèle pas forcément une situation de violence. Cependant, si vous avez coché 3 cases ou plus, vous êtes victime d'une ou de plusieurs formes de violence conjugale. Physique, morale, psychologique ou économique. Ah oui, j'en ai pas parlé, ça. Mmh. Économique, c'est-à-dire la question d'être dépendance des sous d'une personne, de pas pouvoir gérer soi-même ses sous, qui est souvent couplé à une violence administrative qui peut aller jusqu'à de la rétention de papier, du coup on peut pas sortir, voilà. Bon bref, pour revenir à cet autotest, si, moi je pense que j'ai envie de lire les questions. Allez. parce que voilà. Alors, donc au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre conjoint ou ami vous a empêché de rencontrer ou de parler avec des amis ou des membres de votre famille? Vous a empêché de parler à d'autres hommes? A critiqué ou dévalorisé ce que vous faisiez, a fait des remarques désagréables sur votre apparence physique, vous a imposé des façons de vous habiller, de vous coiffer ou de vous comporter en public, n'a pas tenu compte ou a méprisé vos opinions, a prétendu vous expliquer ce que vous deviez penser, que ce soit dans l'intimité ou devant d'autres personnes, a exigé de savoir avec qui et où vous étiez, a cessé de vous parler, refusé totalement de discuter, vous a empêché d'avoir accès à l'argent du ménage pour les besoins courants de la vie quotidienne.
Et alors voilà, moi enfin, je l'ai lu là tout à l'heure quand on préparait l'émission, et disons que c'est peut-être un outil que je trouve précieux aussi pour des garçons, en fait. Là, en lisant ça, moi je me rappelais de certaines de mes relations d'il y a quelques années, et en fait... Bah, il y en a au moins 2 où je peux cocher 3 ou 4 cases de qu'est-ce que j'ai pu faire subir à mes partenaires, en fait. Et bon, alors, voilà, c'est aussi ce que j'expliquais tout à l'heure, quoi. C'est que bah, à un moment donné, cette société là et ben elle éduque les garçons dans ce truc de à un moment donné on a le contrôle sur la vie et le corps des femmes, et aussi voilà, comment est-ce que vu qu'on a cette éducation là en nous garçon, et ben comment est-ce qu'on peut aussi s'en rendre compte à des moments qu'on reproduit ces schémas-là ou qu'on les fait vivre à d'autres, qui et ben je trouve c'est pas inutile, en fait, aussi d'avoir ce test-là, quoi, en tant que potentiel agresseur. Et bon, alors après, par ailleurs, hein, je peux aussi suggérer justement à des garçons, d'essayer de discuter avec d'autres de leurs amis garçons, quoi, d'échanger là-dessus, d'essayer de se, enfin peut-être éventuellement c'est ça, de prendre ce test-là et pourquoi pas de se raconter telle personne, je me reconnais dans avoir fait subir ça, et d'essayer de comprendre aussi c'est quoi les mécanismes qui nous poussent à ça ou là-dedans, enfin je peux, ouais.
Et c'est bien la question de l'inégalité entre les deux personnes, c'est-à-dire souvent, ce qu'on peut renvoyer quand on fait cette liste-là, c'est « mais tout le monde se dispute ». Ouais, mais là, on parle pas de dispute, parce qu'une dispute, c'est égalitaire. C'est-à-dire, les deux personnes ont droit à la parole. Peut-être qu'il y en a une qui va avoir raison, l'autre qui va lâcher, mais la fois d'après, ça sera différent. Alors que si on est dans un mécanisme de violence, bah, c'est toujours la même personne qui a l'ascendant, et c'est toujours la même personne qui lâche. Ah voilà, là on parle pas de mettre en cause toutes les relations qui ne sont pas totalement aplanies entre les individus, hein, mais c'est vraiment ce truc d'ascendant sur une personne sur lequel il faut faire très très attention.
Et bon, et toujours pareil, hein, enfin j'ai envie aussi d'adresser des messages à mes congénères masculins, là, sur ce truc aussi de, en fait, qu'est-ce que à quoi on assiste à des moments, Parce que c'est ça, en fait, c'est les disputes qui tournent mal, là, ou en tout cas, ce qu'on peut hop, voir une fois comme une dispute qui est bon qu'on regarde de loin en passant, en se disant, ok, ils ont chié à s'engueuler. Et puis, quand c'est la deuxième ou la troisième fois, et que ça tourne toujours dans les mêmes schémas, et que c'est toujours, à un moment donné, un mécanisme de domination qui se met en place, ben voilà, de pas juste laisser passer. De tenter des choses pour que la situation elle s'arrête et surtout pas en tout cas de briser ce qu'on appelle la solidarité masculine là parce que à un moment donné si on brise pas ça on continue en fait à faire résister cette société ce monde qui fait subir des violences aux femmes et c'est, si on veut lutter contre, il faut commencer par ça, quoi.
Oui. Absolument.
Voilà. Enfin, en tout cas, en tant que garçon, c'est peut-être la seule. Enfin, c'est une des rares façons dont je peux imaginer participer à cette lutte, en fait.
Oui, oui. C'est vrai que sur des situations, par exemple, dont on va être témoin, ou il y a vraiment des violences dans un couple, c'est compliqué d'intervenir parce que pour une femme qui va subir des violences, déjà, c'est compliqué de partir. Il y a tout un bon, je voulais vous expliquer ça ce soir, mais là, je vais pas avoir le temps sur le cycle de la violence, en fait, les différentes phases qui existent, comment on est pris dedans, et puis, au bout d'un moment, on a l'impression que ça se passe mieux, du coup, on laisse tomber, et puis, en fait, on re-rentre dedans, et comment c'est compliqué d'en sortir. Et du coup, ça peut être aussi décourageant, en tant qu'ami, ou je sais pas, vouloir aider une femme qui subit des violences, et l'impression qu'elle veut pas s'en sortir. Mais en fait, il y a plein de raisons qui font que c'est compliqué. Et moi, un des outils qui me paraît essentiel, et dont là pour le coup on n'entend pas trop parler dans les médias, c'est l'autodéfense féminine, quoi. C'est-à-dire que, et féministe, c'est-à-dire que se regrouper en tant que femme, suivre des stages qui existent un peu partout, sur Grenoble, sur Lyon, enfin pas partout, il n'y en a pas assez, mais des stages qui durent 2 jours, qui sont adaptés au budget de chacune et où on apprend ces outils, on apprend à se protéger, on apprend à se défendre, à dire non, à mettre un holà à des situations qui ne nous vont pas, quoi. On en a déjà parlé aussi plusieurs fois sur Calibre. Le groupe sur Grenoble s'appelle Riposte. Vous retrouverez les coordonnées sur notre site. Pareil, on en a parlé plusieurs fois.
Voilà.
On va peut-être s'arrêter là sur les violences conjugales. Non, il y a quand même le numéro. Il y a aussi un numéro de téléphone gratuit qui existe. Je vais vous le donner. Ça peut servir en cas d'urgence ou si vous ne trouvez pas d'association auprès de chez vous pour aller discuter physiquement avec des gens. Donc c'est un numéro qui est unique au niveau national, qui est le 3919, mais qui renvoie sur des antennes régionales. C'est un numéro qui est gratuit. Et il marche du lundi au samedi de 8h à 22h et les jours fériés de 10h à 20h, un truc comme ça. Donc le 39-19.
Un dernier morceau ?
Oui.
Avant de boucler cette émission.
Alors, c'est Rona Hartner et DJ Click. On vous a déjà passé d'autres morceaux, je crois, de cet album. Alors, le titre est dans une langue que je n'ai pas réussi à identifier. Alors, c'est peut-être du roumain, mais peut-être pas. Alors, je vais le dire et puis vous comprendrez pas, mais c'est pas grave. Voilà. Stikel Goal Kumpar.
Yeah.
Allez, retour à Calibre.
Oui, on a décidé de prendre 5 minutes parce que, en fait, l'actualité était tellement riche cette semaine qu'on a plein de choses à vous dire. Non, c'est vrai. Alors, moi, je sais pas si c'est parce que je suis restée spécialement coincée longtemps dans les bouchons avec la radio et que, du coup, j'ai entendu plein de choses et que, voilà. Mais bon, du coup, on a trois petites brèves à vous faire. La première étant que, donc c'était, je ne sais pas, un de ces matins dans la semaine, où j'écoutais une radio d'information continue, vous savez, où tous les quarts d'heure il y a la même chose.
Bon. Celle de Radio France.
C'est ça. Et, sauf que, là, ils ont annoncé un sujet qui m'intéressait bien, c'était un débat, sur la question des mères porteuses. Alors, si j'ai bien suivi le contexte du débat, c'est qu'en gros, le Parti Socialiste est en train de rédiger son projet, j'imagine, pour 2012, hein, puisque, en général, c'est des projets pour des élections, et que fait justement débat au sein du Parti Socialiste cette question d'autoriser ou pas en France les mères porteuses. Donc les mères porteuses, c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, je pense au Canada, où c'est... alors en général, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, mais on essaye de récupérer quand même un ovule et puis un spermatozoïde du père biologique. Et en fait, c'est une autre personne qui va porter, qui va mener à terme la grossesse pour cette femme ou ce couple. Donc c'est ça en gros le principe de la mère porteuse. Et donc là j'étais chouette, un débat. Bon, bien que, bien entendu, encore une fois, les termes du débat, comme d'habitude, c'est pour ou contre, qui pour moi c'est totalement hallucinant comme terme de débat sur cette question du corps et de ce qu'on fait de nos corps. Pour moi le débat, c'est encore une fois comme pour l'avortement, c'est pas pour ou contre, mais c'est quelles sont les possibilités pour que chacune et chacun puisse choisir ce qu'il veut dans sa vie, quoi. Bon, passons. J'étais prête à un débat pour ou contre, et là, oh surprise, en fait les deux invités étaient tous les deux carrément contre, et plus que ça, ils avaient ensemble rédigé un appel à faire en sorte que en France ça ne soit jamais autorisé et mener une campagne internationale contre la possibilité qu'il y ait des mères porteuses tout court dans tous les pays, quoi.
C'est quoi le truc, ils ont un terme plus technique que mères porteuses, là, c'est la
grosse gestation pour autrui.
Gestation pour autrui, c'est ça.
GPA. Voilà. Et donc, bon, c'était un peu nul, hein, parce que le journaliste lui-même n'a pas ni questionné leur position, fait l'autre partie. D'autant que les invités, c'était donc Lionel Jospin, on se demande un peu ce qu'il fait là, mais bon, peu importe, et le docteur Friedman, qui est le médecin qui a mis au point en France le premier bébé éprouvette, donc la fécondation in vitro.
La FIV.
Donc, clairement, c'est quelqu'un qui est jugé parti, puisque si les mères porteuses sont autorisé en France, et ben lui il va perdre un marché qui est hautement lucratif, on le sait, hein, et utilise tout son pouvoir et son prestige. Bref, tout ça pour, je crois qu'en fait j'ai envie de faire un appel à témoignage, pas forcément un témoignage parce que en France les mères porteuses ne sont pas censées exister, mais en tout cas pour d'autres émissions, parce que là c'est tard, ça m'intéresserait de voir comment chacune elle envisagerait ou pas, soit de faire appel à une mère porteuse, soit d'elle-même se proposer en mère porteuse, et pourquoi, en fait. Alors, je veux vraiment pas que ce soit le débat pour ou contre, hein, c'est vraiment chacune pour soi, qu'est-ce qui l'intéresserait dans cette démarche, ou qu'est-ce qui serait des limites qu'elle n'aurait pas envie de franchir. Voilà, j'en dis pas plus sur cette question.
Ça serait vraiment intéressant.
Eh oui.
Tabalam, alors moi j'avais cette petite, vous voyez, donc je lis toujours régulièrement Têtu, hein, le grand magazine gay et lesbien français, et donc voilà, une petite brève de Têtu qui disait que donc c'est en Grande-Bretagne une association qui lutte contre l'homophobie qui s'appelle Stonewall et qui explique que une bonne nouvelle, les gays et les lesbiennes sortent du placard 20 ans plus tôt que la génération d'avant.
Alors ça, voilà. Fait quel âge ça? 20 ans plus tôt.
Eh ben, ça fait que, en gros, les jeunes de 18 ans, ils assument leur homosexualité publiquement dès qu'ils ont 15 ans. Et donc, ils ont interrogé 1536 gays, bi et lesbiennes. Et voilà, les 33 personnes âgées de plus de 60 ans, donc qui avaient été interrogées dans ce groupe de 1500, là, seulement 5 étaient sorties du placard avant leur majorité. Et certaines d'entre elles n'ont jamais fait leur, ont fait leur coming out genre dans les 10 dernières années. Donc les gens de plus de 60 ans ont fait plutôt leur coming out autour des 60 ans. Mm-hmm. Là où voilà, on est à ce stade où les jeunes de 18 ils font leur coming out pendant leur adolescence quoi.
Et alors t'avais une espèce d'hypothèse à nous partager.
Donc ils disent donc Stonewall là dedans, ils disent que c'est des avancées politiques d'un côté et une plus grande visibilité des homos qui explique que c'est plus facile de faire son coming out. Et donc il y a l'union civile, les lois anti-discrimination, et aussi voilà un sujet beaucoup plus présent dans l'espace public. Et bon, en tant que gros consommateur de séries télévisées.
De quoi, pardon, j'ai pas entendu.
En tant que grand consommateur de séries télévisées, je fais aussi un petit coming out. Donc j'ai regardé Skins.
C'est quoi Skins?
Alors Skins, c'est une série qui a été produite par Channel 4, donc une des télés privées nationales en Angleterre, et qui est une série qui parle assez crûment de qui suit en fait des ados, et ça parle beaucoup de voilà leur sexualité, leur rapport au corps, leur relation, un peu des trucs aussi. Il y a pas mal de soirées et de drogue et de choses comme ça, enfin tout ce truc des limites aussi. Mmh. Et en tout cas dans la première saison de Skins par exemple, il y a un des personnage principal qui est PD et qui est là quoi, qui assume complètement d'être PD, ses potes c'est ça, c'est sa sexualité, du coup il drague avec ses potes ou il parle de ses relations ouvertement de la manière que les hétéros de la série parlent de leurs relations ouvertement. Et en tout cas, je me dis, ok, en fait, peut-être, je me suis posé la question, à quel point pour les ados, là, dont qui sont évoqués par l'étude, mm-hmm. le fait d'avoir vu à la télé à un moment donné, ce truc du groupe d'ados où un jeune PD, il est à l'aise avec ça, et ben, à quel point ça joue pas aussi, alors, bon. Ouais.
C'est une autre question.
C'est ça. Mais bref, comme quoi, c'est aussi sous ce truc de comment ça arrive les changements culturels à des ouais. moments, par quel biais ça se diffuse. Alors voilà, je me posais la question parce que c'est pas évoqué plus que ça dans l'article. Ouais. Voilà.
Bon, allez, une dernière petite brève. Vous avez dû entendre aussi aujourd'hui là. Enfin, vous avez dû entendre, non, j'en sais rien. Bon, bref, il y a une étude qui est sortie sur les régimes amaigrissants qui sont souvent inefficaces et très souvent dangereux. Donc, je vous laisserai chercher les études en question si ça vous intéresse. Juste, je voulais rappeler que pour moi, en tout cas, c'est pas du tout la question d'avoir tel poids ou telle forme, mais c'est la question de se sentir bien dans son corps, de pouvoir en faire ce qu'on a envie d'en faire et de pas être limité par une question de poids si on aurait envie de faire des choses. Ça, c'est un premier axe. Et l'autre question qui est fondamentale, c'est la question de pas souffrir du regard que portent les autres sur soi et que du coup on porte sur soi-même. Donc c'est bien pour moi plus une question de travailler les mentalités, les normes et les représentations que de faire des régimes amaigrissants. Mais tout ça...
Et oui,
c'était qu'une diversion pour vous reparler très rapidement, parce qu'il commence à faire tard quand même, de ce week-end en fait.
À Grenoble.
À Grenoble, c'est un week-end sur le rapport au poids et à la grosseur organisé par un groupe de meufs, Gwyn et Trans. Et en gros, c'est un week-end dont je vous ai déjà parlé il y a deux semaines, ou un peu plus, c'était le 4 novembre, je pense, si vous voulez rechercher l'émission, sur cette question de poids, de grosseur, mais le week-end il est en non-mixité, donc meuf, Gwyn, Trans, grosse, sur les activités de travail, les réflexions, les partages ensemble. Il y a deux soirées, samedi soir là, celui-ci, le 27, et dimanche 28, des soirées ouvertes aux meufs, Gwyn, Trans, pas forcément grosse. Pareil, je vous rechercherai, il y a un film et puis il y a un buffet super calorique. Et en fait, ce week-end, il va aussi servir à faire une émission de radio qui s'appelle Dégenré et qui aura lieu le mercredi 8 décembre. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une écoute collective qui est organisée donc de cette émission donc qui sera en direct, hein, je pense, le 8 décembre avec des montages de témoignages. Mais c'est un mercredi et le rendez-vous est à 18h à Antigone, 22 rue des Violettes. Et c'est une écoute ouverte à tout le monde, à tous et à toutes. Voilà, 18h le mercredi 8 décembre à Antigone.
Voilà, on a. Alors, comme on dit, on pourrait envoyer le générique et vous souhaiter vous dire à la semaine prochaine. Juste rappeler, donc, on avait Christelle et Maud à la technique.
Et Lunar et Myriam au micro.
Et à jeudi prochain, 20h, sur Radio Kaléidoscope.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.